ça prend du prix séminaire et on a même pour la modération. Dans le récit, on va voir comment on a une fantaisie médiévalisante avec un côté très hidalgo pour Anastérie, une fantaisie des îles pour Sophia Samatar, un planète d'opéra pour Laurence Sénère avec Vestige par Michel Atalante, et moi ce que j'appelle une participation pour Nathalie Stragier avec Nora Benjamin, fille du futur chez vous, chez Cyrus. Donc les genres et les récits sont très différents dans cette conférence et pourtant on va voir qu'un thème les relie, c'est le thème du voyage. Un voyage à la fois géographique et temporel pour Nathalie Stragier. Isabelle Bottier, on va commencer par vous si vous voulez. Vous êtes scénariste de bande dessinée, vous êtes actrice, écrivaine. Est-ce que Anastérie c'est votre premier roman? C'est mon premier roman. C'est même un roman que j'avais commencé à écrire avant de faire de la bande dessinée, parce que j'ai été éditeur de bande dessinée avant d'être éditeur en roman. Je l'avais écrit il y a 10 années, en fait, ce livre, dans une version un peu primitive, on va dire, mais l'essentiel de l'histoire était déjà là. Et je l'avais présenté à des éditeurs à cette époque-là. Et j'avais eu des retours plutôt encourageants, c'est même passé pas loin de l'édition. Voilà, j'étais quand même plutôt contente parce que je n'attendais pas forcément grand-chose. Et j'ai mis ça un peu de côté, j'ai fait des études, j'ai fait la bande dessinée. Et il s'est trouvé que l'année dernière, Christophe Molestin, donc l'auteur de L'Enfance de Troyes, le grand état de BD comme ça, et André Alouette, une autre autrice de BD, que je connaissais, avec qui je travaillais, écrivaient tous les deux un roman de fantasy. Et Audrey s'est dit, on va essayer de lancer un label un peu qualité de fantasy auto-édité autour de nos trois bouquins, et essayer après de recruter notre auteur pour ça. Et c'est ce qu'on a fait, ça s'est plutôt bien passé, et ça s'est vraiment bien passé qu'au final, les éditions actuelles SEF ont décidé de réutiliser ce label et d'en faire de la collection de fantasy de leur maison d'édition. Et donc, mais alors, j'ai quand même beaucoup réécrit Anastérie, parce que déjà, une dizaine d'années s'était passée, mon écriture avait évolué. C'est quelque chose de très. C'était quand même encore pas terrible la première version. Donc, voilà, il y a beaucoup de travail de réécriture. Et donc, dans ce roman Anastérie, on suit Rinaldo, qui est le fils du baron de Montès, qui va être envoyé dans la baronnie voisine et détestée d'Anastérie. Donc, il n'a pas choisi ce voyage. Qu'est-ce qu'on l'envoie faire? Pourquoi il y va? Alors, on l'envoie officiellement faire un petit peu d'espionnage bon enfant, on va dire. En fait, ça se passe dans un monde qui s'appelle, dans un pays qui s'appelle Civilisation, qui est dans une situation géographique assez particulière, parce que c'est une espèce de petite péninsule, enfin de grande péninsule, mais qui doit constituer peut-être 10% du monde, mais qui s'appelle Civilisation, comme si tout le reste était des sauvages, et qui résiste régulièrement à des invasions, et c'est une monarchie fédérale. Il y a une capitale et quatre baronnies, Montès est une de ces baronnies, Anastérie en est une autre. Et donc ils sont alliés, même s'ils ne s'apprécient pas plus que ça. Je ne sais pas s'ils se détestent, mais ils ne s'apprécient pas plus que ça. C'est des régimes politiques très différents. Et Rinaldo est surtout envoyé là en vrai, parce que son père en a marre que ce soit un gros blondu. Il a un copain qui a un pote aventurier qui s'est fait tout seul, qui est sur le point de devenir un grand chef de guilde, mais qui a grand libertin et qui l'entraîne à remettre beaucoup de choses en question, qui a plein d'idées gauchistes qui l'entraîne à remettre ses privilèges en question et à faire quelques phrases qui sont pas qu'il y en a pas dit, allez-vous refroidir un peu les idées à la série. Et donc le baron de la série, je sais qu'il se retrouve, n'est pas dupe de ça, mais lui, comme il est très vexé, parce que cette baronnie de la série, elle est très riche, elle est très avancée scientifiquement, de point de vue des arts, elle est un peu considérée comme une utopie. C'est une quasi-démocratie dans un monde qui est par ailleurs assez médiéval. Et donc lui, ça l'agace parce que lui, il habite à la frontière, c'est la baronnie montagne, c'est ça qui doit se piquer toujours en première loge pour contenir les invasions, et il en a marre de se faire un peu rabaisser dans l'imaginaire collectif par rapport à ces espèces d'utopistes. Et même pour séduire une nana qui rencontre là, il va essayer de trouver la fille de cette baronnie. Et en faisant ça, c'est encourager la fille parce qu'elle est stérile, on est sympa, on est super libertaire et tout, allez, vas-y, cherche la fille, on encourage presque, on se retient de lui. Mais il va réussir à déterrer quelque chose qui n'est absolument pas ce qu'il cherchait. Et le problème, c'est que suit un jeune héros, Chevikin, qui doit attendre la mort de son père pour voyager, pour aller à Berlin. Pourquoi?
So the main reason he has to wait for his father to die is that his father has a job as a merchant, and he is the one who travels to Alondria or Olomb. And so there's no reason for the son to go. The son doesn't have power to go as long as the father is alive. When he inherits the business, then he can go.
En fait, il y a une raison en fait, que lui ne peut pas voyager, c'est parce que en fait, son père est un commerçant, est un marchand d'épices. Et donc, une fois par an, il va faire un voyage pour aller vendre ses épices. Et c'est donc lui qui voyage. Et le reste de la maisonnée ne voyage pas. Et donc, le fils est obligé d'attendre que son père décède afin d'hériter finalement de l'entreprise familiale. Et lorsque son père est décédé, c'est lui qui reprend le commerce et qui va donc faire le voyage des épices à la place de son père.
Dans quel monde est-ce qu'il voyage? Dans quel monde est-ce qu'il vit? On pourrait nous présenter Ben et sa ville d'origine.
So similar, actually, to what Isabel was saying, there are worlds. There's more than one world within the world, and the important thing for this young man is that he comes from a place where there is a non-literate culture. So there's no one reads or writes where he is, and he goes to Alondria, which is a highly literate culture.
Alors, c'est un petit peu pareil que ce que disait Isabelle, c'est-à-dire que dans le monde de ce roman, il y a donc plusieurs pays. Et donc, dans le pays d'origine du héros, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de littérature écrite, il n'y a pas de livre, tout se fait dans l'oralité. Alors que lorsqu'il va aller en Hollande, Londres est un pays où il y a une grande culture, il y a beaucoup de livres, les gens savent lire, et donc pour lui, ça va être toute une découverte de se retrouver confronté à des choses qu'il n'a jamais vues dans son propre pays.
Pourtant, avant de partir, il y a quand même un professeur qui lui amène des livres sur lesquels il commence à rêver, en fait, avant même de voyager, non?
Yes, and this was his father's idea, because his father wanted to make his son a great merchant, so wanted him to be able to, you know, work equally with these people in Alondria, and so taught him to read for commercial reasons, not realizing that his son would be completely enchanted and gripped by literature.
En fait, c'était une idée de son père qui avait fait venir un précepteur de Londres dans l'idée que son fils, pour qu'il puisse devenir un grand commerçant, il faudrait qu'il puisse traiter d'égal à égal avec les gens de Londres et qu'il soit donc capable de lire à des fins commerciales pour pouvoir négocier avec eux. Et donc, lorsqu'il fait venir ce précepteur, lui pense que ça sera juste pour que son fils apprenne à lire et soit capable d'utiliser ça après dans ses négociations commerciales. Et en fait, il ne se rend pas compte que Jevik va vraiment prendre goût à la lecture et à la culture et que ça va vraiment lui ouvrir de nouveaux univers.
And if I can add something, it's, to me, this, what happens in his learning to read is very similar to, I think, the role that fantasy that plays in people's lives. It's the space that you don't expect. It's the space that doesn't necessarily have practical application. And, you know, you discover it as a child. You discover it by accident. But it can become then a powerful force in one's life.
Et en fait, je trouve qu'il y a une similitude entre Jevik et la façon dont il apprend à lire et les univers que ça lui ouvre. On peut faire en fait un parallèle avec la fantaisie dans la vie des gens, puisque en fait, c'est une littérature souvent qu'on découvre un peu par hasard quand on est petit, et qui finalement va apporter quelque chose d'autre, va apporter une part de rêve, une part d'imaginaire, et pas nécessairement des aspects pratiques, mais ça va vraiment ouvrir à d'autres univers.
Merci. Laurence Tuner, je suis ravie de vous recevoir parce que vous êtes auteur de science-fiction, romancière et dessinatrice suisse-romande. Et comme vous le savez sans doute, cette année, donc le thème des imaginales, c'est Destination et le pays habité est la Suisse. Donc votre pays, Laurence. Bravo. Donc dans votre texte, je disais, on est en pleine scientifique, Klaus, la fille d'un autre scientifique qui se rebelle contre son père. Je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, Ambre Pasquier, qui est microbiologiste. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est elle qui va initier vraiment le voyage, puisqu'il va y avoir une exploration scientifique importante pour Gemma?
C'est un roman, en fait, où il y a plein de personnages. C'est pas évident de point de vue narratif, mais clairement, effectivement, Ambre Pasquier est le personnage central, puisqu'on découvre à la fin de l'histoire. C'est elle qui clôt l'histoire aussi également. C'est par elle, en fait, que l'histoire débute également, puisque c'est elle qui a des rêves. C'est elle qui imagine en fait que donc c'est un système planétaire qui se situe environ à 7 années-lumière de la Terre. C'est une planète violée, c'est une exoplanète violée découverte en 2012 par l'Observatoire de Genève. Et en fait, oui, voilà. Donc ce personnage, les premiers colons qui ont découvert cette exoplanète ont réalisé qu'en fait, en orbite autour de cette planète, il y avait un artefact, c'est-à-dire que c'était un objet qu'on va. On imagine que c'est un vaisseau spatial, mais c'est un vaisseau, c'est une forme organique qui est tout à fait étrange, qui ne correspond pas du tout à une forme de technologie habituelle humaine. Et c'est effectivement Ambre Pasquier, cet exobiologiste qui a des sortes de prémonitions et des rêves, qui imagine qu'il y a quelque chose sous la carapace de glace, sous les 6 km, les 4 km de la carapace de glace, et qui entend un rythme. C'est une nuit, un rêve d'un endroit, et il entend en fait deux entités en fait qu'il appelle, une qu'il appelle et une qui la repousse. Et en fait, l'histoire débute comme ça, c'est-à-dire qu'elle va lancer une expédition scientifique pour essayer de valider en fait sa théorie comme quoi il y aurait des vestiges encore actifs sous cette carapace de glace. Donc ça, comme l'histoire commence comme ça, et évidemment ça va très très loin, puisqu'on voit donc ces créatures qui ont laissé ce vaisseau en orbite et ces vestiges s'appellent les bâtisseurs. Et en fait, on finira dans Origine, qui est le tome 3 qui est ici, en fait, sur la planète d'Origine, justement, c'est les bâtisseurs. En gros,
merci. Nathalie Strachet, je finis par vous. Vous avez gagné le prix Imaginaire des Collégiens, bravo, pour donc Ne ramener jamais une fille du futur chez vous. Alors, dans un premier temps, on peut paraître moins dépaysé par votre texte, puisque ça se passe en France. Presque à notre époque,
il y a 2 ans d'écart,
voilà, ça se passe aujourd'hui. Du coup, on suit une héroïne, Andrea, qui est une fillette normale, hein, qui est au lycée, et qui prépare son voyage avec un de ses amis à l'étranger. Déjà pour elle, c'est le grand voyage. Or, il ne va pas se passer, en tout cas dans le tome 1, elle ne va pas partir, mais il va lui arriver quelque chose de tout à fait différent, et elle va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Pénélope. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Pénélope?
Oui. Alors, Andrea veut voyager et elle va en fait voyager d'une façon bien plus incroyable que tout ce qu'elle rêve en rencontrant Pénélope. Pénélope, c'est une fille du futur, la fille du futur du titre. Elle est née en 2171 et elle vient à notre époque avec sa prof d'histoire et sa classe pour visiter ce qu'elle considère être comme le Moyen-Âge. Notre époque est barbare, c'est bien connu. Et la classe est censée rester 3 minutes, surtout pas plus, parce que c'est dangereux, sans parler à personne, sans toucher à rien, puis vite repartir. Et toute la classe repart, la prof d'histoire aussi, et Pénélope reste là, elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas rentrer chez elle toute seule. Évidemment, elle est terrorisée, et donc elle va demander de l'aide à une fille de son âge, un peu au hasard, qui est Andrea, qui l'a remarqué, parce que Pénélope est quand même un peu bizarre. Et les deux filles ont signé d'amitié. Au début, c'est compliqué parce qu'elles sont très différentes. Elles n'ont pas la même façon de vivre, pas la même culture. Et petit à petit, elles vont apprendre à se connaître. Andrea va découvrir que cette fille vient du futur, ce qui est quand même difficile à avaler. Et elle va découvrir aussi ce qu'est notre futur, comment la société va évoluer. Et autant pour Pénélope, comme ça, elle trouve ça tout à fait normal, c'est même bien mieux comme ça. Autant pour Andrea, quand elle découvre ce qui nous attend de façon imminente, et messieurs, je m'adresse particulièrement à vous, Andrea est très très inquiète. Et ça va être l'occasion de beaucoup de choses drôles en fait, parce que le lecteur ne sait pas au départ d'où vient Pénélope, comme Andrea en fait, il va découvrir en même temps d'elle, et donc elle a un certain nombre d'indices sur l'origine de Pénélope, c'est une réfugiée, elle ne peut pas contacter ses parents.
relation, qu'est-ce qu'elle comprend sur elle, sur sa famille ou ses amis, ou comment elle se remet en cause.
Alors, ce voyage s'étale sur trois tomes, c'est une trilogie. Donc, effectivement, chacune des filles, André et Pénélope, va suivre une trajectoire, apprendre beaucoup de choses sur elle-même et sur les autres. Alors, c'est un livre un peu féministe, je ne vous le cache pas, qui parle essentiellement de qu'est-ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est être un garçon, et quels sont les rôles que la société attend de nous, selon qu'on soit fille ou selon qu'on soit garçon. Et Andrea, qui est la fille de notre époque, a donc grandi dans une société qu'on peut encore qualifier de patriarcale, parce que le fait est que nous vivons encore dans une société patriarcale. Donc, j'entends déjà des voix dire que l'égalité est acquise désormais en Occident. Je pense qu'elle ne l'est pas encore tout à fait. Et Andrea a donc une fille qui grandit dans un monde qui est quand même encore globalement dominé par les hommes. C'est donc une fille qui a du mal à s'accepter comme fille, qui aimerait avoir plus de liberté. Elle veut faire ce grand voyage. Sa côte, sauf qu'elle est mineure et que son père s'inquiète beaucoup pour elle parce que c'est une fille, elle n'a pas tellement envie de la laisser partir. Et elle a envie de pouvoir être considérée légale dans le monde. Andrea, c'est une fille qui a du mal à s'accepter en tant que fille, qui va apprendre au fur et à mesure des trois tomes, à s'accepter en tant que fille. C'est pas par hasard si elle s'appelle Andrea. Andrea, André, ça vient du grec, c'est l'homme, c'est androgyne, etc. Elle s'appelle garçon, Andrea. C'est une fille qui a du mal à être une fille et qui va apprendre qu'une fille, c'est bien aussi. Pénélope, évidemment, elle fait le chemin inverse. Elle arrive dans un monde où on pense que les femmes sont les seuls êtres humains vraiment intéressants. Et elle va découvrir que les garçons ne sont pas si mal.
Je vais poser la question à tous nos auteurs sur les découvertes et sur les risques que courent les voyageurs, en fait. Découvertes sur soi, risques, des risques physiques qui sont courus dans les pays dont ils vont.
Kevin, the hero of my novel, his journey is one of discovery in a religious conflict which has outlawed, which has said ghosts don't exist. And so he winds up actually a prisoner in a mental institution at one point because they don't believe him.
Alors, en fait, pour Jelic, son voyage est effectivement un voyage de découverte, mais aussi un voyage de risque, qui est ce risque finalement est produit par les différences culturelles entre son pays d'origine et le pays dans lequel il va voyager, puisque à un moment de l'intrigue, il va se rendre compte qu'il est hanté par le fantôme d'une jeune fille qu'il a rencontrée au cours de son voyage, et malheureusement, en Hollande, dans le pays où il voyage, il y a un conflit religieux qui intervient depuis des années, et où il a été décrété que les fantômes n'existent pas. Et évidemment, lui, avec ses manifestations, avec le fait que ce fantôme lui parle, il va finir par atterrir dans un asile psychiatrique, parce que justement, les fantômes n'existent pas.
I should say also that when I wrote the novel, I was teaching English in South Sudan between 1998 and 2000. So it was a country that was at war. There was a civil war, and it was a war between North and South, between different religions, Muslim and those who were Christian or practicing traditional African religions. And so my own travel, my own voyage of discovery, also had in it an element of risk.
Et en fait, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, en fait, j'étais enseignante, j'enseignais dans le Sud-Soudan. Et donc, dans un pays dans lequel il y avait des conflits, il y avait la guerre, il y avait des conflits religieux entre les musulmans, les chrétiens et ceux qui pratiquaient des religions traditionnelles africaines. Et du coup, pour moi aussi, mon voyage et ma découverte a représenté un risque.
Laurent Sudel, est-ce que du coup, dans votre récit, comment elle ne monte pas l'expédition en ne disant pas tout aux autres, et du coup, il y a pas un risque aussi de révélation, le risque d'implosion, d'expédition
Mais en fait, le risque, bon, elle a caché son mais elle les connaît. Pas à ces choses-là, puisqu'en fait elle rêve, elle est scientifique, en fait elle a des visions, donc elle les rejette. Donc elle n'y croit pas vraiment, mais en même temps elle organise quand même l'expédition. Mais le danger, en fait, effectivement, ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'auraient pas pu découvrir, effectivement. Mais bon, dans le cas présent, c'est peut-être pas le voyage vraiment qui est à l'origine du péril, c'est plutôt en fait ce personnage d'Ambre dans ses rêves perçoit donc une entité, quelqu'un qui l'appelle. Et en fait, c'est le fait de prononcer son nom, qui est une chose qu'on n'aurait jamais pu faire. Parce que justement, on ne sait pas si c'est une entité, est-ce que c'est une divinité, est-ce que les scientifiques pensent que c'est une machine, parce qu'il y a deux expéditions qui se croisent. La première expédition, qui est une expédition scientifique, pense qu'en fait, c'est une machine qui s'est détraquée, qui était laissée en place par ces anciens visiteurs, les bâtisseurs, et qui est en train de se détraquer, et qui ronge le cœur de la planète, et qui détraque la métrique de l'espace-temps, en fait. Ou alors, est-ce que c'est vraiment une sorte d'entité? Et Ambre, qui est hindouiste, a rejeté en fait l'hindouisme et toute la forme de religion dans sa jeunesse parce qu'il est arrivé un traumatisme. Et elle, bien qu'elle ait le sentiment qu'il y a quelque chose d'une entité en fait dans cette créature qu'il appelle, mais elle le rejette avec force parce que bien sûr, ça va contre toutes ses croyances scientifiques, enfin justement, qui ne sont pas des croyances, mais toutes ses vérités scientifiques. Et petit à petit, on se rendra compte de qu'est-ce que c'est que cette entité, est-ce que c'est vraiment une divinité, est-ce que c'est une entité, est-ce que c'est une machine, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est ça qui va créer le danger en fait, du livre. Et après, tous les enjeux en fait, que ça entraîne. En fait. Il y a beaucoup de choses, on parle beaucoup de science, on parle beaucoup de mythes, on parle beaucoup de mythes d'une autre civilisation en fait. Et on parle de mythes de destruction, de création. En fait, ce voyage, c'est plus dans le passé d'une civilisation qui s'est éteinte. C'est ce type de voyage-là. Et aussi un voyage dans le passé de la ruine, Ambre Pasquier, qui, au travers de ce voyage au cœur de la Terre, va redécouvrir en fait, son propre passé qu'elle a oublié quand elle était enfant. Et elle va revivre petit à petit, au fur et à mesure que cette civilisation va retrouver petit à petit aussi ses origines. Dans le troisième tome, elle-même va aussi recouvrir en fait, la mémoire. Mais c'est plus lié juste une sorte de voyage initiatique plutôt. En fait.
Et pourquoi avoir choisi ce cadre où il me semble qu'il fait moins 102 degrés, c'est-à-dire qu'il
fait encore plus froid. Ça, c'est l'extrême. Il fait en général en moyenne moins 40.
C'est quand même très très froid.
c'est l'extrême.
Non, je dis, c'est peut-être aussi hostile.
C'est un peu plus régime comme ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, par exemple, cette série, j'avais dans la tête planète glacée, musique, parce qu'il y a un lien à la musique. Je suis aussi musicienne, donc il y a un lien très fort au rythme à la musique. Qu'est-ce que ça sert à la musique? Quelle expression? Est-ce que c'est forcément une expression écrite ou orale? Est-ce que le son peut véhiculer de la signification, ce genre de choses? Donc, les idées de base que j'avais, c'était planète glacée. Je me demandais pas pourquoi. Peut-être parce que je vis en montagne à 1800 mètres, qui fait toujours froid, qui quand j'écris, il y a toujours de la neige, c'est possible. Il y avait de la musique, une électrobiologiste, un artefact en orbite, une civilisation ancienne, point. Il y avait de la glace.
Oui, il y avait
de la glace.
Et il y a de l'eau aussi. Quand on parle de planète opéra, on pense aussi recherche scientifique. Vous avez dû faire un tas de recherches pour ce livre.
Je travaille toujours avec des scientifiques parce que c'est un aspect de la science-fiction m'intéresse. Moi, je suis aussi très romanesque dans la science-fiction, mais c'est vrai que je me base sur une base scientifique d'ailleurs pour d'autres textes. Je travaille avec des astrophysiciens en fait, ou alors des physiciens. Mais j'aime bien prendre un élément de base qui est réaliste et le détourner pour faire quelque chose de vraiment une fiction. Et après, bon, bah, c'est vraiment de la science-fiction, ça va loin. Et donc, la base, ce système planétaire de Gaiman, justement, c'est une étoile donc, qui s'appelle Altamira. Et le deuxième système planétaire dans le troisième bouquin, qui s'appelle le système Bontak, sont des systèmes qu'on a créés. En fait, on les a composés, on a donné des masses, des distances, etc. Donc, des systèmes qui pourraient être viables, en fait, d'un point de vue astrophysique. Et là, je continue ce genre de travail avec un groupe d'astrophysiciens internationaux. J'écris des nouvelles de science-fiction qui sont basées sur leurs découvertes. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà.
Je vais demander aux autres, alors du coup, le voyage qui a lieu dans le texte, est-ce qu'il est basé sur vos voyages, sur le voyage que vous avez pu faire? Alors, moi, je suis une mauvaise voyageuse, très mauvaise voyageuse. Donc, c'est pas tout ça, je demande quand même. Non, je suis pas douée pour ça, c'est quelque chose que je trouve difficile. J'admire beaucoup les gens qui voyagent. Pour moi, c'est difficile, c'est un gros effort. Mais les personnages voyagent et voyagent de façon extraordinaire, c'est très bien, ils le font à leur place. Et pourquoi cette année 2187? Alors, pourquoi cet espace de temps qui est quand même assez loin, mais pas non plus. Voilà, il fallait que ce soit un peu loin, mais pas trop non plus. Et très, 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 très bêtement, en fait, pour éviter de m'embêter dans les comptes des années, en fait. J'ai donné la date de naissance de mon personnage, c'est l'année de ma naissance 200 ans plus tard, en fait. Comme ça, je ne me trompais pas trop. C'est très pragmatique. C'est bien.
Isabelle, veux-tu? Moi, je suis assez bon parce que enfin, je suis très partagée entre l'envie de bouger de plus pour la découverte des voilà, et une nature très casanière. Donc, ça me demande aussi de faire violence, effectivement. Voyager, je faisais plus avant, parce que j'ai des enfants bas âge, donc j'ai fait quand même une petite pause. Mes voyages se restreignent à l'Angleterre et les régions, les pays proches, ou même les voyages en France. Mais oui, j'ai toujours. En fait, c'est souvent parce que j'ai écrit un autre livre qui, lui, pour le coup, était vraiment, façon bébé, qui s'appelle Le Prétexte, et qui était vraiment sur le voyage et qui détournait un peu le concept de voyage initiatique. C'est un gars qui, en fait, il a, pour plein de raisons, il a un autiste de menti le matin du virus du sida, il avait une histoire de rapport à protéger. Il ne sait pas, il ne passe pas le test, mais il saisit ça comme prétexte pour se barrer et faire son voyage initiatique, parce qu'il y a quelque chose qui était très particulier. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'était. Bon, il était dépaysé par les cultures, par des détails de culture et tout ça, mais c'est quelqu'un qui. Sa conclusion à lui, c'était. Pas si facile d'être dépaysé parce que si on regarde bien dans le détail, il n'y a pas tant de fossé entre les gens. L'humain reste l'humain, quel que soit son contexte, quel que soit sa culture. Donc évidemment, on se focalise sur les différences parce que c'est ça qui nous intéresse ou c'est ça qui nous menace. Mais ce gars-là, et je suis un peu comme ça parce que je n'ai pas du tout le caractère de ce personnage qui est un enfoiré, donc j'espère que je l'ai. C'est vrai que c'est une réflexion que je me suis déjà faite en voyageant, alors que je ne suis pas spécialement, enfin, je suis quelqu'un plutôt introverti et tout. C'est vrai que j'avais trop de mal à m'intégrer, il ne faut peut-être pas abuser parce qu'il y a vraiment des grosses différences, mais à comprendre ou à me sentir à l'aise au milieu d'autres cultures, parce que la première chose que je vois, c'est les choses fondamentales.
alien anymore, and you just forget about them, and you go past them, and you're reading. So that moment of my learning to read Arabic went into the story.
Donc ma réponse va finalement se faire en deux parties. La première partie, c'est que effectivement, quand j'ai écrit l'histoire de Jévic et son rapport à la lecture, je me suis bien évidemment inspiré de ma propre vie. Moi, j'ai vécu au Soudan pendant 3 ans, en Égypte pendant 9 ans, et donc je n'ai pas du tout de souvenir de la façon dont j'ai appris à lire ma propre langue maternelle, l'anglais, puisque j'étais trop petite, mais par contre, j'ai des souvenirs très nets du moment où j'ai appris à lire l'arabe. Et je me souviens vraiment de ce moment particulier où on lutte, et puis les choses ne font pas vraiment sens, et d'un coup, ça y est, les choses s'éclaircissent, on comprend, et on accède tout de suite à autre chose. Donc vraiment, l'expérience de découverte de la lecture de Jévic était vraiment basée sur ça.
My second answer is that, you know, really the primary way that I travel is through. And I think that, again, when we go to fantasy four, when we want to go and we want to travel and experience different worlds, it is transportive to read fantasy. It transports you to another place. And for me, not only fantasy, but all the literature that I love. We were talking earlier about my love for French writers, especially Proust and Marguerite Duras, are the two very important writers for me. So reading their work is also being transported. It's being transported through language. And the struggle for the character is almost not between two different countries, but between the country of literature and the country of life. And how do you inhabit life and literature at the same time?
Alors, la deuxième partie de ma réponse, c'est qu'on voyage également à travers la lecture. La lecture, et notamment la fantaisie, ça ouvre à d'autres univers, à d'autres paysages, à d'autres cultures, à d'autres choses, et à d'autres langues. Moi, je sais que j'adore la lecture, et donc la fantaisie, mais aussi les auteurs étrangers. J'ai une grande admiration pour 2 auteurs français, qui sont Proust et Marguerite Duras, qui m'ont vraiment emmené vers d'autres choses. Et donc, pour Jévic, finalement, le voyage, c'est aussi finalement la différence entre la vie de tous les jours et la vie qu'il trouve dans la littérature, c'est-à-dire ce qui l'emmène ailleurs à travers le texte.
Et moi, j'ai trouvé aussi dans votre texte que vous faisiez aussi beaucoup voyager le lecteur par des petites touches de réalisme comme la chaleur, la moiteur, les senteurs, les parfums, et du coup, est-ce qu'il y a un travail stylistique sur le voyage?
J'ai effectivement beaucoup travaillé sur le texte, puisque en fait, entre le moment où j'ai écrit les premières lignes et le moment où ça s'est terminé, il s'est déroulé pratiquement 13 ans, ce qui effectivement est trop long.
It's very similar to South Sudan where I was living. I would just take, you know, the sky, the trees.
c'est assez rigolo parce que de la part, elle est sur un bateau, mais quand je suis sur le bateau, c'est ma maison. Donc c'est une façon particulière de voyager parce que je ne suis pas une sac à dos. C'est-à-dire, oui, je faisais ça quand j'étais peut-être 18 ans et j'ai fait quelques voyages sac à dos, etc. J'ai fait les États-Unis, j'ai été aux Antilles, enfin des trucs comme ça. Mais par contre, c'est vrai que maintenant, quand on me dit OK, on part sur un bateau, super. Alors je mets mon sac sur le bateau, alors on voyage, c'est génial tout, mais mon sac est sur le bateau. Donc en fait, c'est à ma façon de voyager, je crois qu'elle me correspond bien, c'est que je suis un peu casanière, je pense, dans l'âme, vraiment. Je laisse mes personnages, par contre, je les mets dans des situations hallucinantes de voyage, justement, sans retour, enfin, de leur faire expérimenter des choses que j'oserais pas faire, disons-le clairement. Mais c'est vrai que j'ai un côté casanier, je suis pas une grande voyageuse, mais par contre, dans la tête, je voyage énormément. Voilà, mais oui, c'est un voyage ultime pour moi, effectivement, pour moi, parce que moi qui aime vivre, en fait, pourquoi j'écris, c'est que j'aime vivre. J'écris parce que j'aime vivre des aventures que je ne pourrais jamais vivre. En fait. Mais moi, au-delà de faire vivre à quelqu'un d'autre ou au lecteur, je suis très égoïste, j'adore faire vivre des aventures à mes personnages et je les vis à travers mes personnages, en fait, par procuration. Donc en fait, c'est ma façon de voyager ultime, on va dire.
Est-ce que vous avez un voyage à nous conseiller, un endroit où vous avez, par exemple, un beau souvenir de voyage?
Oui, il y en a beaucoup, surtout tout ce qui est la mer. Enfin, pour moi, c'est dès qu'on est sur un bateau et qu'on traverse par exemple la Méditerranée, il y a des très très belles choses. Moi, je fais toutes les îles, les éoliennes, toute la Méditerranée à bord d'un vieux canot. Et ça, quand on part à bord d'un voilier, mais surtout un vieux canot où on hisse les voiles, les boules à l'ancienne, etc., c'est franchement une aventure encore. Parce qu'on a failli couler le bateau, je ne sais pas combien de fois, parce qu'il arrive toujours des conditions de météo hallucinantes. Donc franchement, partir sur un bateau, vraiment, un voilier, mais encore un vieux voilier ancien, c'est vraiment encore une aventure, et puis il y avait des catastrophes. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est tous les voyages en bateau sont des voyages exceptionnels, et on s'en rappelle très très fort, en fait. Plus que si je vais à Bordeaux en Italie, ou bien un truc comme ça, ou si je vais voyager, je dis n'importe quoi, je vais faire un safari, pas un safari, on dirait jamais. Bon, les voyages en bateau marquent, en fait, je pense, parce qu'il y a une dimension un peu dangereuse, parce qu'il peut se passer des choses. Le danger du voyage.
Isabelle ?
Moi, beaucoup plus zen. En Turquie, à Istanbul, la basilique de la Citerne, pour moi, c'était la plus. C'est connu sans être parmi non plus les trucs les plus connus à Istanbul. Je trouvais ça très magnifique, apaisant. Je suis plutôt un peu speed, c'était formidable. Sinon, le parc naturel de Grèce, je vais aussi prononcer Plitvice en Croatie, qui est un parc naturel avec plein de chutes d'eau. C'est assez parfait, c'est un truc assez touristique parce qu'ils ont fait des petits chemins et tout, mais on a quand même, ils ont réussi à faire ça de telle manière qu'on avait l'impression quand même qu'on sent la nature dans laquelle on est. Il y a plein de magnifiques, c'est pas Niagara, c'est une forêt avec plein de chutes d'eau dedans, donc c'est pas du tout dans ce truc super impressionnant visuellement, c'est juste très très beau. Et puis sinon, d'une manière générale, je pense juste partir, pas forcément sac à dos, mais partir un peu. En retard, même en retard confort, moi je suis pas. J'entends les voyages organisés, ça m'est déjà arrivé d'en faire, c'est chouette, des fois j'ai juste envie de poser, c'est guidé, mais pour vraiment voyager, pour vraiment aller à la. C'est évident, mais pour aller à la rencontre des gens, faut y aller en tout temps, et il faut être capable de sortir un peu de sa zone de confort et juste pas d'être curieux de se balader, de sortir un peu du guide. Moi je fais du géocaching, je sais pas si vous connaissez le géocaching. Je vais cacher, car pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le monde entier, c'est des gens qui cachent des petites boîtes que vous pouvez aller, vous allez sur internet, vous mettez ça sur la pluie, vous avez un simple GPS, vous avez les coordonnées, vous allez chercher la boîte, et il y en a des millions dans le monde entier. Mais alors, c'est un truc de geek de presse, mais c'est vraiment super intéressant. Notamment, là, je vais retourner à Londres bientôt, je vais aller plusieurs fois à Londres, je vais me refaire à Londres avec ça, et je sais que je vais découvrir des endroits dans lesquels je ne suis jamais allé, alors que je pense connaître un peu bien la ville. À Paris, j'ai fait ça, j'habitais à la région parisienne pendant une trentaine d'années, j'ai découvert des trucs, j'avais pas eu des sources dans Paris.